Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. À l'occasion de la COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, Arte propose une programmation spéciale dédiée aux gardiens de la forêt pour découvrir et comprendre les enjeux autour de ces espaces naturels uniques, les 5 dernières grandes forêts primaires du globe, en Amazonie, en Afrique, en Océanie, en Asie et en Amérique du Nord. Gardien de la forêt, c'est une formidable série de 5 documentaires accompagnés d'un beau livre et d'une campagne d'impact. Il y aura donc une journée spéciale Gardien de la nature sur Arte le samedi 9 décembre 2023 et les documentaires sont déjà visibles sur arte.tv. Pour en parler, je reçois Muriel Barra, productrice et coordinatrice de la campagne d'impact. Bonjour Muriel et bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour Anne, merci pour l'invitation.
Vous êtes actuellement en tournée, j'ai envie de prendre le mot habituel, même si peut-être qu'il n'est pas très adapté au contexte, dans le cadre de cette campagne d'impact avec ces 5 gardiens de la nature. Comment allez-vous et comment vont-ils ?
Je crois que le mot, c'est bien celui-là. Il s'agit bien d'une tournée de mobilisation générale face à l'urgence de préserver les forêts, la grande forêt du monde, on va dire. Donc, nous en sommes, les gardiens sont encore en France pour 4 jours, là. Ça fait déjà 10 jours qu'ils sont là et c'est aussi joyeux que fatigant aussi, bien évidemment, parce que nous rencontrons beaucoup de monde, beaucoup d'entretiens, Mais ce qui est formidable, c'est de voir vraiment l'engouement médiatique autour de ce message et le fait que leur présence en France, précisément comme vous l'avez dit, pour diffuser d'une même voix ce même message la veille de l'ouverture de la COP28, ce message est vraiment repris par l'ensemble des médias et ça, c'est formidable. Parce qu'il faut bien comprendre que leur présence en France, c'est-à-dire la présence de 5 ambassadeurs des forêts qui viennent de 5 continents différents, c'est vraiment historique.
Oui, et c'est vrai qu'on peut se souvenir vaguement, avoir déjà vu des chefs représentants de peuples autochtones qui venaient d'Amazonie avec quelque chose d'un peu folklorique, on a des vagues souvenirs. Là, en fait, on est obligé aujourd'hui de relier leur message, qui pouvait nous passer peut-être un peu au-dessus de la tête il y a encore quelques années, de le relier à les menaces qu'ils vivent, aux menaces qui nous menacent aussi, toutes les problématiques aujourd'hui de chute de la biodiversité, de réchauffement climatique. On voit dans ces 5 documentaires, on va en parler plus en détail, à quel point, enfin, on voit bien dans ces documentaires comment ces populations qui sont loin de nous sont aujourd'hui impactées par nos modes de vie et comment finalement notre impact que l'on a cherché à invisibiliser, à ne pas vouloir regarder en face depuis pas mal d'années, aujourd'hui ça nous rattrape parce que voilà, tout est interdépendant et donc les conséquences, on les subit aussi de plein fouet. J'avais envie de vous demander, parce que je reçois régulièrement des informations sur les documentaires à venir sur Arte. Là, on est quand même dans une campagne d'envergure, on peut dire. Et j'avais envie de vous demander comment est né ce projet. 5 documentaires, un très beau livre, un gros livre, et une campagne d'impact. Je ne sais pas si c'est si fréquent que ça pour la chaîne franco-allemande.
Non, ce n'est pas fréquent du tout. C'est même la première fois, en tous les cas, que ça se fait à ce niveau-là, parce que déjà beaucoup de chaînes ont fait des campagnes d'impact, beaucoup de films ont été accompagnés en parallèle aussi par des événements, mais oui. À ce niveau-là, d'engagement d'une chaîne sur cette volonté d'impact, c'est effectivement une grande première. Et pour vous expliquer rapidement l'histoire de tout ça, ça a commencé il y a 7 ans, au moment de la COP21, à l'occasion de laquelle Mudjidé Kipanga, qui est donc le chef papou, a été invité à Paris pour témoigner aux côtés de Robert Redford. En fait, il a été invité à l'UNESCO à la demande de Robert Redford pour venir témoigner de ce qui se passait en Papouasie. Et à l'époque, en Papouasie, la situation était assez préoccupante. Donc, à l'occasion de ce passage-là, nous avons suivi Mudjidé en France et en Papouasie. Nous avons fait avec lui Marc Dozier et Luc Maresco, les deux réalisateurs, un film qui s'appelle Frères des arbres. Et ce film a connu un vrai succès en télé, mais il a été beaucoup porté par Mudjidé Kipanga et Marc Dozier dans justement des sphères en parallèle de la télévision, donc au niveau scolaire, mais aussi ils ont été invités par des hommes politiques, des collectivités locales. Et là, on s'est rendu compte vraiment que, même comme vous l'avez dit, si ces messages, finalement, on les diffuse depuis très, très, très longtemps, eh bien, une fois qu'il y a quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde pour témoigner de la situation dans son pays, eh bien, en fait, toutes les caméras sont là. Et les hommes politiques, du coup, sont peut-être un petit peu plus sensibles et du coup prennent une position un petit peu plus facilement pour la préservation des forêts. Donc, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de très fort qui s'était joué autour de l'accompagnement de ce film. Et de fait, on a proposé à Arte de renouveler finalement cet exercice-là, mais de le faire de manière globale sur les 5 continents pour parler vraiment de ces 5, comme vous l'avez dit, possiblement dernière zone de forêt primaire.
Oui.
Donc, il a fallu faire un casting, on va dire, pour trouver vraiment les bons ambassadeurs. Et ensuite, avec Arte, qui est très vite embarqué sur cette idée-là, nous avons déployé comme une liste d'outils, finalement, c'est ça, on a créé une boîte à outils de comment pouvons-nous nous appuyer sur ces témoignages très, très riches que ces ambassadeurs de la forêt nous ont confiés. Comment peut-on nous porter leur message de manière la plus efficace qu'elle soit. Donc, nous travaillons aussi avec une société qui travaille sur l'impact, qui s'appelle FinFilm, Impact Production, et qui a déjà pu faire témoigner Toumoursouk, qui vient de Mongolie et qui a pu présenter son film au Parlement européen. Et ensuite, moi, je me suis occupée vraiment de ce dont vous parlez là, c'est-à-dire cette tournée où nous avons... l'engagement, je dirais, était presque personnel, en fait, quand on a démarré ce projet avec les gardiens, où je me suis engagée, enfin, la promesse de leur dire « on vous fera rencontrer des personnes qui peuvent réellement s'impliquer sur le développement de vos projets en local, qui peuvent réellement changer les choses. » Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire quand nous avons été accueillis à Monaco par le prince Albert lors de la Forest and Community Initiative, donc vraiment une conférence en l'honneur des communautés qui vivent dans la forêt. Là, nous avons rencontré, ils ont pu rencontrer beaucoup de représentants de différentes ONG. Je crois que ça a été vraiment des rencontres très importantes pour eux. La ville d'Évian nous a accompagnés et a créé le sommet d'Évian, où nous étions il y a encore quelques jours, sur 2 jours. Oui. Il y a eu beaucoup d'ateliers, de réflexions, là aussi, avec différents intervenants des différentes sphères. Michèle Rivasi, par exemple, la députée européenne, est venue nous expliquer où est-ce qu'on en était au niveau des lois européennes sur cette notion de la limitation de la déforestation importée.
J'ai vu qu'elle ça faisait, c'est un des sujets, elle s'occupe de beaucoup de choses en général qui me touchent d'assez près, c'est un des sujets, j'ai vu qu'elle avait pris à bras le corps au niveau de en tant que députée européenne, et elle est allée sur place, je crois, rencontrer voir ce qu'il en était vraiment sur place il y a un an peut-être ou deux, j'ai vu passer ça dans ses comptes de réseaux sociaux.
Elle est allée effectivement en Amazonie et elle a pu témoigner justement de l'horreur à laquelle elle a pu assister, et surtout de la rapidité à laquelle les choses se passent et de ce phénomène d'accélération en Amazonie comme ailleurs qui fait que Voilà, il ne s'agit plus aujourd'hui de prendre conscience et de faire des petits pas et de s'arranger en se disant que ça va bien aller. Là, il y a vraiment urgence. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont là aujourd'hui. Certains, comme Banky Piyako, par exemple, de la communauté Ashaninka, est très engagé sur la scène internationale depuis très longtemps. Lui, comme d'autres communautés d'Amazonie. Voilà, 50 ans après le premier sommet de la Terre, on en est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on savait, en fait, être déjà urgent? Là, maintenant, il faut vraiment agir très, très vite.
Alors, peut-être pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas toujours au fait des sujets dont on parle, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots déjà qu'est-ce qu'une forêt primaire et en quoi c'est important de les protéger aujourd'hui pour toute l'humanité, puisque c'est un peu le sujet des documentaires?
Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a encore jamais été coupée. On va dire une forêt qu'on a laissé vraiment se déployer en toute liberté. Elles sont de plus en plus rares. Mais aujourd'hui, dans certaines de ces forêts-là, on peut imaginer qu'il y a certaines essences d'arbres qui sont présentes depuis des centaines d'années et qui peuvent représenter un certain attrait pour des forestiers qui, à la place de voir des arbres, voient surtout l'appât financier qu'ils représentent. Donc, ces forêts sont de plus en plus mises à mal. On trace des routes aussi au cœur de ces forêts-là, ce qui permet le déploiement, que ce soit des orpailleurs, l'introduction des agriculteurs qui vont couper ces forêts pour y installer du bétail, pour y planter du soja, qui pour la plupart servira également d'alimentation au bétail. On y a mis de l'huile de palme, des palmiers à huile, c'est du cacao, tous ces produits, comme vous l'avez dit, que nous consommons au quotidien, et parfois peut-être, on va dire que peut-être qu'on ne savait pas en fait d'où venaient tous ces produits. Aujourd'hui, notre responsabilité de consommateurs et de citoyens du monde nous oblige à nous renseigner vraiment sur la provenance de tous ces produits-là. Et voilà, c'est ce que Banky particulièrement est venu nous dire, parce que l'Amazonie, la situation est vraiment dramatique.
Et la deuxième question, très simple, avant d'entrer plus en détail dans les documentaires, qu'est-ce qu'un gardien de la forêt, donc? Et est-ce qu'ils sont désignés par quelqu'un? Comment ça s'est mis en place, ce concept de gardien de la forêt?
Non, il ne s'appelle pas gardien de la forêt. Il n'y a pas un réseau, en tous les cas pas encore, de gardien de la forêt. Nous sommes allés les chercher, en fait, parce que chacun à leur échelle, ils sont très impliqués localement pour la protection de la forêt dans laquelle ils vivent. Ce sont vraiment des gens qui vivent de et par la forêt, que ce soit souvent pour leur alimentation, pour leur santé, pour s'habiller, pour se loger. Ce sont vraiment des gens qui sont plus que connectés, en fait. Mudidje Kepanga, quand vous le voyez habillé avec ses habits traditionnels, il vous explique que tout ce qu'il porte sur lui vient de la forêt. Et la forêt les soigne, et la forêt les abrite, et voilà, c'est un lien, bien évidemment, qui est aujourd'hui très très loin de ce que nous, Européens, nous pouvons avoir avec la forêt.
Est-ce que je peux vous demander, puisque tout à l'heure vous disiez qu'il y avait quelque chose d'un peu personnel, vous aviez pris un engagement vous-même par rapport à ces gardiens de la forêt au début du projet, comment vous êtes-vous vous-même intéressé à ces gardiens de la forêt? Est-ce que ça date à peu près du début du projet, ou est-ce que c'est une plus longue histoire pour vous?
En fait, moi, j'ai créé la Tosiensu Production il y a une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, je suis arrivée dans ce milieu de manière un petit peu naïve, on va dire. Je ne connaissais personne, mais j'avais juste une profonde envie de faire des films sur la préservation de l'environnement. À une époque où je suis devenue maman, où j'ai toujours, par mon histoire personnelle, été très sensible à la nature, à la préservation de la nature, où on commençait à nous parler, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais à commencer à sortir à cette époque, il y a une vingtaine d'années, la notion de développement durable. Mais on nous parlait, ouais, c'est ça, on nous parlait essentiellement de l'angle écologique, mais on n'a pas vraiment pris le temps de nous expliquer en fait qu'est-ce que ça voulait dire que durable, et qu'il fallait aussi prendre soin de la dimension sociale, et qu'il fallait aussi prendre soin de gagner de l'argent entre guillemets. Donc trouver un équilibre dans tout ça qui aurait fait que le modèle aurait pu tenir. Aujourd'hui, ce mot, on ne l'utilise plus vraiment. Mais voilà, ma volonté, quand j'ai créé la Tous Sensu Production, c'était d'aller fouiller dans cette notion-là et de trouver les personnes qui, de par le monde, témoignaient vraiment de la possibilité d'une autre manière de vivre, et de vivre sereinement, de vivre heureux. Il y a bientôt 20 ans, enfin entre 15 et 20 ans, j'ai produit la série Artisans du changement.
J'allais vous en parler. Parce que voilà, ça a été beaucoup copié depuis, hein, mais vous étiez une des pionnières à lancer une série d'une telle envergure en allant chercher des personnes qui étaient eux-mêmes des pionniers pour un monde meilleur, en fait.
Oui, c'est exactement ça. Et effectivement, on a été un des premiers, et puis aujourd'hui, tant mieux, parce que on est très heureux que ce modèle se soit multiplié. Mais la volonté, c'était vraiment d'aller chercher des gens partout dans le monde. On a fait 60 portraits dans le monde, dans plus de 40 pays différents, pour parler de tous les secteurs économiques, puisque l'idée étant quand même qu'il faut qu'il y ait un modèle économique qui permette de protéger la nature et de prendre soin des humains. Et qu'on parle à la fois de la santé, de l'éducation, du commerce, enfin... On a fait 20 thématiques avec à chaque fois 3 personnages de 3 pays différents qui nous parlaient de leurs solutions locales. L'idée étant, et ça aussi depuis on a été conscient, il y a un problème global mais il y a des solutions locales. Et donc, fort de ce travail qui a été colossal mais qui nous a vraiment porté, enfin moi et toute mon équipe pendant plusieurs années de production, bien après on a bien évidemment continué sur ce sujet-là. De toute manière, ce sujet de la préservation de l'environnement et de, on va dire, l'effondrement de la biodiversité que l'on vit aujourd'hui est pour moi, à titre personnel, une forme d'angoisse permanente sur laquelle je travaille. Et c'est peut-être ma manière de sublimer les choses que d'aller vers des gens qui font des belles choses et qui sont encore là pour nous dire « il est encore temps ». De changer, regardez, je vous le montre, en fait, c'est possible. Mais là, c'est maintenant, c'est vraiment maintenant.
Oui, c'est ça. Alors, ces quelques lignes qui accompagnent les documentaires sur le site d'Arte me semblent assez bien résumer l'esprit qui, je crois, a sous-tendu la réalisation de ces 5 documentaires. Donc, je cite, « Loin de folkloriser leur combat, Gardiens de la forêt nous invite à refaire, tant qu'il est temps, une place à leur vision du monde. » À l'écoute de ces fortes personnalités, indissociables des écosystèmes qu'elles défendent, une reconnexion s'opère en rupture radicale avec la réification et la marchandisation de la nature devenue notre ordinaire. Est-ce que c'était un peu la feuille de route, ça, pour chaque réalisateur? Parce qu'on sent bien cet esprit, cette ligne au travers des 5 documentaires.
Oui, mais c'est ça, c'est le mot rupture est vraiment bien choisi, en fait. Parce qu'on est précisément à l'heure de la rupture en ce qui concerne la préservation de l'environnement et la possibilité du maintien de l'espèce humaine sur Terre, parce qu'en fait, on parle juste de ça, concrètement. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure des arrangements et des petits aménagements entre nous. Il s'agit vraiment d'opérer une rupture radicale. Sinon, je vais prendre les rapports du WWF, du GIEC, tous ceux qui arrivent à peu près régulièrement tous les ans pour nous dire, c'est ça, qui nous disent en fait on vous avait dit que c'était grave, mais c'est encore plus grave que ce qu'on vous a dit l'année dernière. Il y a, je crois, 3 ans, vous me dites si je dis des âneries, mais je crois que c'était le WWF en fait qui faisait un rapport que si on ne changeait pas radicalement notre modèle d'ici 3 ans. On s'en allait vers quelque chose qui allait être gravissime. Et ce point a été posé il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a pris, et ça, j'en appelle aussi à notre responsabilité de médias qui parfois à une manière de traiter l'information où je ne sais pas si vraiment ceux qui l'entendent ou la voient à la télévision sont capables de faire le tri dans tout ça, mais il arrive, on nous parle du fait qu'on a dépassé 6 limites planétaires sur 9, et parfois cette information arrive entre les résultats du foot et les sorties cinéma, et je ne sais pas si les gens sont... Quelle information on envoie aux personnes
C'est ça, la façon de hiérarchiser l'information par rapport à ces sujets-là, la place dans la hiérarchie, on sait bien que dans un JT, il y a une hiérarchie de ce qui va arriver en une et puis ce qui arrive en fin de journal. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'interroge beaucoup où on retrouve ces sujets-là qui devraient être au-dessus de tous les autres, puisque si on ne fait rien, tous les autres sujets n'auront plus de raison d'être, puisque telle guerre à tel ou tel endroit en ce moment, sans rentrer dans les détails, de toute façon, il y en a plein, elles vont être enveloppées, englobées, dépassées, submergées par cette problématique qui va tout ravager. C'est vrai que ça pose question.
Exactement là. Ça aurait dû être, depuis déjà plusieurs décennies, l'occasion de réunir le monde entier, en fait, dans une mobilisation générale sur ce sujet-là. On a perdu 50 ans, encore une fois, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Premier sommet de la Terre, rapport Meadows en 72, et ce sont déjà des scientifiques de par le monde qui nous expliquent que si ce modèle économique continue à se développer, on s'en va vers quelque chose qui s'appelle l'effondrement. 50 ans après, le constat est là, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 50 ans. Donc, est-ce que nous, médias, notre responsabilité n'est pas de déjà dire la réalité? Parce que ça, c'est quelque chose que je me suis souvent entendu dire dans les chaînes où il ne faut pas être anxiogène. Alors oui, il ne faut pas être anxiogène, sauf que la réalité, il faut quand même la dire aux gens. Et moi, je pense que je suis convaincue que les gens sont intelligents, en fait, et que si on explique les choses, mais en mettant derrière, tel qu'on le fait dans les films, des solutions, des pistes de transformation, en fait, les gens sont intelligents et peuvent changer. Mais notre responsabilité d'éducation, entre guillemets, de médias, aujourd'hui, j'interroge parfois certaines chaînes, certains magazines, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait?
Oui. Alors, j'aimerais que l'on parle un peu plus en détail de chacun de ces 5 documentaires. Le premier, alors, je ne sais pas s'il y a un ordre, en fait. Moi, je les ai mis dans l'ordre dans lequel je les ai regardés, mais on peut les regarder dans n'importe quel ordre ou il y a une chronologie à suivre?
Moi, si je devais vous donner un conseil de visionnage sur la plateforme, je vous conseillerais de démarrer par le film de Benki Piyako au Brésil, qui pose, selon moi, vraiment la situation la plus... Et oui, en fait, en diffusion, il va passer en dernier. Mais voilà, c'est-à-dire que là, vous allez prendre de plein fouet, le film est assez dur, en fait, parce que, encore une fois, Benki, sa communauté, comme beaucoup d'autres en Amazonie, sont très menacés et leur vie est réellement mise en danger tous les jours de par ce que l'on fait subir là-bas aux forêts. Donc le film témoigne de ça et explique cette notion de déforestation importée et en appelle à notre responsabilité à tous au niveau européen. Ça, c'est clairement dit dans le film. Ensuite, vous avez Twyla, donc Twyla qui vient du Canada, Tomorso qui vient de Mongolie, et Mambongo qui vient du Gabon, qui témoignent chacun de la situation dans leur pays en termes de pollution ou de déforestation, de changement climatique.
Oui, et les menaces qu'ils ont
Voilà, du braconnage aussi au Gabon. Donc chacun étant impliqué dans sa profession ou via l'association qui l'accompagne dans un projet local, donc tout ça, vous le retrouverez dans ces 3 films-là. Et je vous conseille de terminer par le film avec Modidje Kipanga en Papouasie, qui, comme on en a parlé
donc
tout à l'heure...
C'est celui dont j'allais parler en premier.
Ah, pardon. Parce que ce film-là, avec Modidje aujourd'hui, est comme la suite, finalement, du film Frères des arbres, dont on a parlé tout à l'heure. Frères des arbres, qui a été donc réalisé il y a 7 ans, qui nous expliquait les menaces qui pesaient sur la forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh bien, ce film est là pour témoigner du fait que quand il y a une réelle volonté politique, en fait, les choses changent. Et c'est ce qui s'est passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Modidje témoigne de ça. Et il y a eu un premier ministre là-bas, James Marape, qui a pris conscience de ce que la Papouasie était en train de vivre et qu'il fallait stopper ces dégâts. Il s'est engagé personnellement de manière très ferme et forte. Et aujourd'hui, des solutions sont en place dans ce pays-là, si bien que la Papouasie est comme en passe de devenir un exemple de bonne gestion de ses forêts au niveau international. Donc,
c'est assez réjouissant, hein, je dois dire. Oui.
C'est assez réjouissant. Et ce message-là tombe plutôt bien, finalement, à l'ouverture de la COP28, parce que, finalement, le message est là. Vous, les hommes politiques qui allez vous réunir à Dubaï pour la COP28, donc juste le chiffre qui nous laisse comprendre que, bon, là, il serait peut-être temps de s'y mettre quand même, quoi. Sachez que tout est entre vos mains, mais si vous avez réellement la volonté que les choses changent, en fait, c'est possible. Mais c'est maintenant. C'est ça que ce film nous dit.
Et ça demande, comme il est bien mentionné dans le film aussi, une lutte radicale contre la corruption. Donc, c'est vraiment des combats très profonds, en fait, pour arriver à ces fins, à partir du moment où des personnes politiques sont bien intentionnées par rapport à la problématique. On voit que c'est un travail de longue haleine et ça demande beaucoup de courage.
Oui. Exactement, oui. Non, ça demande une vraie responsabilisation de nos hommes politiques et effectivement lutter contre la corruption et des tas de facteurs qui probablement m'échappent encore, ça c'est sûr, mais voilà, on espère que ce message soit entendu jusqu'aux portes de Dubaï.
Oui, mais dans les faits, dans ce qu'on voit dans ce documentaire, de nombreuses exploitations illégales ont été fermées et des programmes de protection internationaux ambitieux commencent à offrir des alternatives concrètes aux habitants de la forêt. Donc ça, c'est quand même, en plus, ce qui est vraiment super que ça se passe dans ce pays où vous aviez déjà tourné, c'est que ça vous a permis, j'imagine, de faire un avant-après, un bilan et de pouvoir réellement constater. C'est pas juste on vous dit que ça va mieux. Vous avez des personnes sur place qui peuvent témoigner en fait de réels progrès.
Ah ben oui, bien sûr, mais surtout oui. les communautés en fait, les premières concernées.
Mais oui,
c'est ça. À qui on a laissé la gestion finalement de ces forêts qui leur appartiennent et qui arrivent aujourd'hui à développer des économies, mais qui sont liées à la protection de leurs forêts. Par exemple, ils peuvent accueillir des scientifiques qui vont venir faire des inventaires, qui vont venir passer du temps dans leurs forêts. Tout ça, c'est de l'argent qui est versé aux communautés, qui leur permettent de développer des écoles, des choses comme ça. En fait, il y a un rapport, je crois, c'est la FAO qui disait que en fait les communautés autochtones de par le monde, et c'est reconnu, sont le mieux placées pour gérer les forêts.
Oui.
On le sait en fait. Je crois aussi que les communautés autochtones représentent à peu près 5% de la population mondiale, occupent à peu près 20% de ce territoire, mais participe à la préservation de 80% de la biodiversité du monde, ce qui est absolument colossal. Donc, une fois qu'on a dit ça et si on a bien compris ce que ça veut dire, en fait, laissons-les faire. Laissons-les faire, rendons-leur leur terre, rendons-leur leur forêt, et c'est à eux à nous dire de quelle manière il faut les gérer et les préserver.
Alors, il y a un documentaire qui s'intitule « La forêt qui soigne ». Là, c'est au Gabon. Je vais lire le petit résumé. « Chef reconnu, tradi praticien et homme médecine, inquiet face au braconnage qui pille les richesses de la forêt primaire du Gabon, Hilarion Kassa Moussavou Mambongo souhaite recréer le lien fragile entre l'homme et la nature par la pratique d'une cérémonie longtemps tenue secrète, le Bouiti. » Au-delà de ce rôle de gardien spirituel, Mambongo veut désormais s'engager dans la préservation des ressources et de la forêt. Aux quatre coins du pays, il part à la rencontre d'acteurs locaux, de communautés et de porteurs d'initiatives pour s'initier à ce rôle de défenseur qui lui semble désormais indispensable. Alors là, on est dans les forêts du bassin du Congo, des forêts que l'activiste et prix Nobel de la paix kényane Wangari Maathai défendait aussi ardemment. Cette forêt suscite de nombreuses convoitises. Elle s'est beaucoup battue pour ça, puisque son prix Nobel de la paix était aussi pour une action pour l'environnement et qui s'est retrouvée être une action pour les droits humains, puisqu'elle aussi a dû combattre beaucoup les problèmes de corruption pour protéger ses forêts. Donc cette forêt suscite de nombreuses convoitises et les intérêts financiers écrasent bien souvent ce qui est précieux pour Mambongo et pour nous tous aussi, même si on a du mal à en prendre conscience. Qu'est-ce que l'on peut en dire de ce documentaire et de ce qui le distingue peut-être des autres films?
Alors, c'est marrant que vous parliez de Wangari Maathai. Elle a fait partie de nos artisans du changement.
Ah.
Nous avons eu la grande chance de pouvoir la rencontrer il y a 17 ou 18 ans.
J'étais très, très fan.
Alors,
j'ai lu tous ses livres.
Ouais, ben ouais.
Vraiment, c'est... Oui.
Belle femme, ouais. Et bah oui, le bassin du Congo, on le sait, enfin toutes les images qui nous viennent de là-bas sont assez terribles. Après,
oui.
Le Gabon, la situation du Gabon n'est pas la situation du Congo. Il y a 11 parcs nationaux au Gabon. Il y a une vraie volonté politique de préserver ces forêts. Donc, il y a un gouvernement qui fait ce qu'il peut. Après, voilà, c'est aussi le gouvernement que l'on sait. Mais de toute manière, dans ces forêts-là, comme dans la plupart des forêts, bah, il y a des intrusions de braconniers, de forestiers peu scrupuleux qui cherchent des essences d'arbres rares. Donc, Mambongo, sa particularité dans ce film-là, comme vous l'avez dit, c'est un homme médecine, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît parfaitement toutes les essences de bois de sa forêt et qui sait quel bois, quelle racine, quelle feuille, qu'elle va pouvoir soigner telle ou telle maladie. C'est cette connaissance
oui.
ancestrale qu'il essaye, lui, de transmettre aux jeunes générations qui, au Gabon, comme dans la plupart des pays, vont de plus en plus, sont de plus en plus attirés, on va dire, par la ville et perdent un petit peu cette connexion avec la nature. Donc Mambongo, son travail, son projet en tous les cas, c'est de construire cette école de la forêt qui va ramener les jeunes et moins jeunes, mais à la connexion à la nature. Et pour lui, tout ça passe par, comme vous l'avez dit, par la cérémonie du bouti, durant laquelle il utilise la plante de l'iboga, qui est une plante aussi qui est énormément convoitée dans ce pays. Donc lui, sa mission, elle est de replanter aussi cet iboga, qui est l'ingrédient, on va dire, essentiel à la cérémonie bouti.
Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque forêt primaire, enfin chaque documentaire consacré à quelqu'un dans une de ces forêts primaires, on découvre les spécificités des lieux et aussi ce qui les menace. Donc, on déforeste, on pille, pas toujours pour les mêmes raisons. Il y a l'exploitation du bois lui-même, souvent pour l'exportation, mais aussi les besoins de terre, comme il est rappelé dans les documentaires, pour la culture, entre autres du soja, pour nourrir les élevages intensifs, souvent en Europe, par exemple, et il y a aussi le pétrole, ce qui nous amène au documentaire au Canada, La Voix des Ancêtres. Je lis le petit résumé. En pleine forêt boréale canadienne, la jeune Twila Edji Masusumi est une militante active et respectée par sa communauté d'aînés. Jeune recrue des gardiens de la terre, donc là c'est une femme cette fois-ci, et un peu plus jeune. Jeune recrue des gardiens de la terre qui se battent pour la cause amérindienne et pour la défense des Premières Nations du Canada depuis plus de 50 ans. Elle dénonce les dégâts écologiques et culturels que les grandes compagnies pétrolières et minières leur imposent sur leur territoire. Sur les traces des premiers combattants, Twila souhaite activement faire retrouver à la nouvelle génération leur lien ancestral avec la forêt. Et ce documentaire est passionnant aussi parce qu'on y voit cette jeune femme, Twila, mais aussi sa tante qui a été elle-même déplacée, si j'ai bien compris, par une compagnie pétrolière et qui est aussi la première femme autochtone élue au Parlement canadien. Donc elles font aussi progresser concrètement, on peut dire, leur cause. Hein. C'est vraiment du travail de terrain, du travail de fond, mais qui amène des résultats de grande envergure quand même.
Oui, en fait, eux, ils sont impliqués, comme vous l'avez dit, dans l'association Les Cachougotinés, donc des gardiens de la terre. Alors oui, Twila est la plus jeune femme gardienne de la terre, et avec sa tante Ethel, qu'on voit dans le film, qui l'amène même sur les lieux où se sont imposées les raffineries il y a très longtemps. Elles devaient rester seulement quelques années et puis elles sont toujours là, et elles continuent à polluer les sols, elles continuent à polluer l'eau,
les rivières,
et la
oui.
mission, ouais, c'est ça. Et donc la mission de ces gardiens de la terre, c'est par exemple par rapport à l'eau, de faire régulièrement des prélèvements,
oui,
et de pouvoir les analyser et de pouvoir concrètement témoigner du fait que leur eau est polluée. Donc ce qui fait que ça procure des maladies en cascade aussi dans la communauté. Toutes les terres sont polluées. Voilà, ils essayent concrètement au quotidien de faire connaître les pollutions dues à l'implantation de ces raffineries. Là-bas aussi, vous savez qu'il y a les forages pour les minerais, on cherche du gaz de schiste. Je crois qu'au Canada, il y a vraiment aussi une détérioration des. On parle peut-être pas de déforestation, mais peut-être plus de détérioration en fait de la forêt par rapport à la recherche de toutes ces énergies-là. Et on a déplacé des communautés qui ont même, pour certains, enfin pour tous en ce qui concerne la communauté de Toila, vécu des heures très difficiles à l'heure des pensionnats où les enfants
ah, oui.
ont même été arrachés aux communautés, à leur culture, pour leur imposer un mode de vie plus occidental, on va dire. Et c'est aujourd'hui tout le travail aussi que mène Toila et sa communauté de ramener ces jeunes à leur culture ancestrale. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Mambongo, de les ramener à ces savoirs et à la reconnexion avec la nature. Donc Toila et sa communauté organisent pour cela des camps où ils prennent des jeunes enfants, adolescents, ils vont passer plusieurs jours avec eux au cœur de la forêt pour leur apprendre tout ça. Et ça, c'est un travail de très, très longue haleine.
C'est beau,
vous
hein,
savez,
cet engagement. Oui.
Oui, non, je disais pardon, mais je crois que, enfin, que ce soit l'expérience de Toila, enfin, de tous peuvent faire écho à ce qu'on vit aussi chez nous, en fait, hein, parce que, alors, peut-être la disparition de la forêt est quelque chose de moins édifiant chez nous, mais la forêt en France et en Europe en général, bah, elle n'est pas non plus en très grande forme. Et ce principe de déconnexion de la nature, bah, c'est quelque chose que ma génération et encore plus celle qui arrive vit complètement. Donc j'espère que leur témoignage fera aussi écho à ce qu'on vit.
Oui, donc ce documentaire « Mongolie, la vallée des ours », je lis le petit résumé là aussi, mais ça, il est vraiment exceptionnel aussi ce documentaire. Toumoursouk Djal est le directeur de la zone préservée de la taïga rouge, aujourd'hui refuge d'une biodiversité unique. Ce parc national créé en 2014 a pourtant été le terrain de pillage déraisonné dans les années 1990. Pour préserver sa forêt natale, sur laquelle le changement climatique fait planer une nouvelle menace, Toumoursouk est contraint de s'opposer aux traditions des communautés de nomades chasseurs. Décidé à faire respecter la loi et à changer les mentalités, il engage des gardes forestiers parmi ces populations, même parmi d'anciens chasseurs, ce qui est assez étonnant de suivre tout le travail qu'il fait avec eux, et il dialogue inlassablement avec elles. Alors ce documentaire, il est un peu plus long que les autres. Il est magnifique en termes d'image et d'émotion, bon, ils sont tous magnifiques, et il nous permet bien aussi, au travers des différents avis d'habitants, de prendre conscience des difficultés qui sont liées au fait de vouloir protéger la faune, la flore. Et on voit que ce n'est pas facile de concilier les intérêts des animaux, par exemple, et les intérêts des humains, de réussir à protéger ces animaux sans que cela ne soit au détriment des humains, et de leur mode de vie, ce qui n'est pas toujours abordé lorsque l'on aborde le sujet sensible des zones protégées. Et là, je trouve que c'est amené très finement tout ce que ça apporte effectivement de difficultés, de contradictions, d'intérêts contradictoires, y compris au sein d'une même population.
Alors oui, La Vallée des Ours, donc ce film de 90 minutes, comme vous l'avez dit, qui est plus long que les autres dans sa diffusion qui sera faite là sur Arte le samedi 9 décembre, en fait, c'est le seul film pour lequel on a fait une version longue de 90 minutes. Au départ, quand Hamid Sardar, le réalisateur, a écrit le scénario, son objectif était, comme pour les autres films, d'aller témoigner de l'engagement de Toumoursouk sur le terrain, de son implication au quotidien en tant que directeur de la zone préservée de la Taïga Rouge.
Oui.
Pas plus, j'allais dire, entre guillemets. Et puis, il s'est trouvé que quand il est parti en tournage, eh bien, il y a des ours qui se sont invités sur le tournage, qui n'étaient bien évidemment pas prévus. Et que la présence de ces ours dans le village de Toumoursouk témoigne en fait de tout ce que ces animaux-là, au titre de réfugiés climatiques, en fait, parce que c'est ça. Qu'est-ce
oui.
qui fait qu'ils en sont arrivés là? Comment on fait aujourd'hui avec ces animaux qui sont chassés, là en l'occurrence c'était à cause des incendies, mais aussi parce qu'ils ne trouvent plus à manger ailleurs, parce que ce sont des réfugiés climatiques. Donc, ces ours étant invités sur le tournage, finalement le scénario s'est comme étoffé, et ça a donné naissance à ce film un petit peu plus long que les autres, de 90 minutes. Pour la petite histoire, c'est un film qui connaît un succès absolument éblouissant en festival depuis,
oui, j'ai vu ça.
Depuis le
oui.
mois de début de l'année. Je crois qu'on en a plus de 20 prix dans les festivals et, c'est, et ça, c'est fantastique. Et quand en plus, vous avez tout morceau Oudjal qui le présente avec un sourire d'une générosité infinie, ça touche énormément les gens parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, sa mission à lui là-bas, et là aussi, ça va faire écho à des choses qu'on a vécues en France il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est de, aujourd'hui, la situation étant bah, celle qu'on connaît et l'urgence de préserver cette zone-là, eh bien, il est dans l'obligation de faire évoluer les traditions des communautés qui ont toujours été des communautés qui ont chassé, en fait. Aujourd'hui, il doit imposer cette interdiction de chasser. Et pour pouvoir faire respecter cette loi, son idée a été, et c'est là où c'est absolument prodigieux, de justement intégrer dans son équipe des anciens chasseurs, partant du principe que personne mieux qu'un chasseur ne connaîtra ce territoire-là. Donc, il est allé vers ces chasseurs-là, et quand il nous en parle, il nous explique à quel point c'est justement son sourire qui est sa première arme, et il nous le dit avec tellement de générosité, et il a réussi à embarquer avec lui des rangers qui sont passés du statut de chasseur braconneur à celui de rangers pour la préservation de la nature. Quoi. C'est très très fort ce qu'il fait.
Oui. Oui, et c'est intéressant, je trouve, d'avoir, parce que c'est un petit peu nouveau qu'on puisse avoir aussi cette approche, parce qu'il y a eu la grande période des zones protégées, de la conservation de la nature. Ensuite, on a entendu des critiques s'élever par la façon dont les Blancs et la colonisation avaient pu imposer un mode de conservation de la nature qui niait, qui ignorait complètement les populations locales. Donc, on a vu des ONG commencer à se bouger par rapport au caractère indispensable de tenir compte des populations locales, de les protéger. Je pense à Survival International avec qui j'ai fait un podcast, qui sont très au taquet sur le sujet, mais toujours avec les populations locales et non pas pour parler en leur nom. Donc là, dans ces documentaires, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce sont les personnes locales, les peuples, les représentants de ces peuples autochtones dans chacune de ces forêts qui prennent la parole, qui agissent et qui essaient d'adapter au mieux les contraintes qui deviennent aussi les leurs par rapport au réchauffement climatique, aux chutes de la biodiversité et où effectivement, à un moment, par rapport à une chasse trop intensive, à du braconnage, à tout ça, c'est difficile de gérer tout ça quand on voit toutes les critiques qui sont menées et d'autres part, on voit bien qu'il faut aussi faire quelque chose pour réguler un petit peu les abus.
Bah, oui, bien sûr. Enfin, là aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, à une autre échelle, bien évidemment, mais ce qu'on disait tout à l'heure, nous aussi, dans les années 70, il y a des parcs nationaux qui sont arrivés en France. Et on est arrivé en disant, bah, en fait, maintenant, ces zones-là, c'est terminé. On n'y chasse plus, on ne cueille plus, on ne fait plus ça parce qu'il est urgent de ne plus toucher à ces zones-là. Donc nous aussi, à notre échelle qui est bien évidemment différente, on a connu ça. Et là, bah, c'est Tomorso qu'en fait qui dont le travail est d'aller au contact de ces communautés-là et de leur dire en fait ce n'est plus possible. Il faut qu'on vous amène des solutions et ça fait partie aussi de son travail de trouver des solutions de bah, comment vous pouvez continuer à vivre en modifiant ces traditions-là. Certains évoluent font de l'écotourisme, certains font, enfin voilà, c'est une autre manière de penser le territoire. Mais ce qui est formidable avec ton morceau qui vit au cœur de cette taïga rouge, c'est-à-dire vu de chez nous, au bout du monde en fait, tout morceau a parfaitement conscience que son travail bénéficie au monde entier en fait, et de sa responsabilité et de son devoir de protéger la nature. C'est une leçon de vie qu'il nous donne. Parce que, oui. Comme il nous le dit, moi, je ne peux rien contre le changement climatique en Afrique. Par contre, je suis ici, en Mongolie, et j'ai le devoir de protéger cette zone-là. Tomorsouk a réussi à faire que cette zone qui avait été totalement malmenée et pillée par des braconneurs, des orpailleurs, des forages de tout minerai et dont la plupart des espèces animales avaient été chassées, il a réussi à ramener la vie et à faire que même ces animaux-là vivent en pleine tranquillité et n'ont même plus peur de l'humain. Et ça, il a réussi à le faire en l'espace de 20 ans. Donc, son témoignage aussi...
Et on sent à quel point, on sent son émotion quand il constate lui-même, en revenant sur une zone sur laquelle il n'était pas venu depuis un moment, c'est les progrès grâce à ses efforts.
Pour moi, c'est tout morceau que c'est vraiment quelqu'un qui touche énormément tous les gens.
Oui.
Et qui interroge vraiment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire notre responsabilité à chacun. Cet homme-là, encore une fois, qui vit au fin fond de la Mongolie, qui se met dans des situations, vous le voyez dans le film, où il met vraiment sa vie en danger, parce qu'il s'impose d'agir et de faire tout ce qu'il peut pour la préservation du vivant, pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. Si on avait tous conscience de ça, chacun à notre échelle, on n'en serait pas là, ça c'est sûr.
Oui, et il y a la scène avec ces deux jeunes ours là qui ont traversé la Sibérie russe et où Toumoursouk dit que c'est la première fois qu'ils sont face à ce problème. Il explique que ce sont des réfugiés donc du changement climatique. À cause des feux de forêt en Sibérie, ils ne trouvent plus de quoi vivre. Et il y a une scène où ils les poursuivent à cheval et en voiture pour réussir sans leur faire de mal à les mettre dans des cages en fer pour pouvoir les ramener dans une zone où ils ne se feront pas tuer par les humains. C'est vraiment très émouvant, c'est vraiment très beau parce qu'il y a cette nature aussi qui est très puissante, ces oursons là, forcément auxquels on s'attache parce que des oursons déjà c'est quand même on s'attache plus facilement, c'est sûr, malheureusement qu'à d'autres animaux qui sont un peu moins qui nous touchent un peu moins. J'ai vu dans les remerciements au générique de ce documentaire le nom de Saba Rahmani que j'avais interviewé pour un podcast de Sosuit Planète par rapport à une collection qu'elle a, Voix de la Terre, qu'elle a lancée sur Actes Sud. Et c'était un super podcast, non pas de mon fait, mais par rapport à toute la richesse de ce qu'elle a pu dire. Et c'est un podcast qui ne cesse d'être écouté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Saba Rahmani, sur son intervention et sur les personnes peut-être qui ont gravité autour de ces documentaires, qui sont des personnes de qualité visiblement, qui ont permis d'avoir quelque chose d'aussi juste?
Saba est intervenue à l'étape du développement en fait, de la série, où on a travaillé vraiment sur le développement de l'histoire de certains personnages, mais qui, voilà, pour des raisons de production et puis pour des raisons de leurs histoires personnelles, ces personnages-là n'ont pas continué l'aventure dans la série. Mais Saba a été impliqué sur le développement, en fait. Effectivement, cette nouvelle collection qui démarche chez Actes Sud, je crois qu'il prend comme le parallèle des mondes sauvages, s'annonce aussi être une très très belle collection. Mmh.
Ah oui, en tout cas, moi, j'ai lu et je l'interviewais par rapport aux deux premiers volumes et c'était exceptionnel. Et j'ai eu des retours sur ce podcast et j'en ai encore aujourd'hui. Et il a fait apparemment vendre pas mal de livres, donc j'étais ravie parce que c'est une mine, je trouve, d'enrichissement. Ouais. Quelques mots peut-être, parce que là aussi, j'étais ravie de découvrir que les musiques des 5 documentaires ont été composées par un artiste que j'apprécie beaucoup et depuis longtemps, qui est sensible, talentueux, qui fait des choses vraiment d'un travail d'orfèvre. C'est Pierce Faccini. Comment est-il arrivé dans l'histoire?
Eh bien, vous avez tout dit. Je partage la même admiration pour cet artiste depuis très longtemps. Et quand on était en train d'écrire les films, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un de ses concerts. Et je suis tout simplement allée le voir en lui disant « je suis fan, quoi. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» Parce que on entend bien de toute manière dans ses compositions, c'est ce qu'il écrit, qu'on est bien sur les mêmes thématiques. Et Pierce a accueilli le projet avec un engagement total. Et effectivement, ça mérite d'être souligné parce que la musique qu'il nous offre dans ses films, et vous avez tout à l'heure parlé de la séquence où on va attraper les ours. Là, c'est un morceau de Pierce qui est absolument merveilleux. Donc Pierce a composé pour les 5 films, juste le film sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée où un autre compositeur, Julien Revel-Anderson, a également composé des morceaux. Mais sinon, Pierce Faccini a composé pour les 5 films. C'était un très joli travail, avec le grand regret aujourd'hui que ses obligations de sa propre tournée à lui font qu'il ne pourra pas rencontrer les 5 gardiens. Ça, c'est bien dommage.
Ah. Eh oui, pas facile de faire se croiser tout ce monde.
Les artistes.
Oui. Quelques mots alors peut-être sur le livre, le beau livre.
Le beau livre, coédition Arte, Le Seuil, qui est vraiment le complément, on va dire, à la série documentaire, dans lequel vous retrouverez, c'est un beau livre, un livre assez épais, vous retrouverez toute la présentation à la fois des 5 personnages de la série, de leur forêt, des menaces qui pèsent aussi sur elles. Donc ça, voilà, ça c'est...
Oui.
Si vous avez aimé la série, je vous conseille fortement d'acheter le livre qui va avec. Le beau livre Gardien de la forêt, je ne sais plus combien c'est de pages, mais il est quand même assez épais et plutôt destiné à un public adulte, on va dire. Mais Le Seuil Jeunesse a également fait un livre plus pour les enfants.
Ah oui.
Et là aussi, vous retrouverez les personnages, mais avec des dessins et puis des textes beaucoup plus adaptés au jeune public.
D'accord. Est-ce qu'on a quelques dates encore à rappeler ? Le podcast, on est le 29 novembre au moment de l'enregistrement. Le podcast va être en ligne d'ici cette fin de semaine. Est-ce qu'il restera quelques dates pour rencontrer les gardiens de la forêt pendant qu'ils sont encore sur notre sol ou pas ?
Alors, si le podcast est diffusé, par exemple, vendredi matin, sachez que vendredi soir, donc ce sera le 1er décembre, à la Gaîté Lyrique, vous aurez sur le plateau Mambongo, Jérôme Bouvier qui est le réalisateur de son film et Yann Guignon qui est le directeur de l'association Blessing of the Forest qui accompagne Mambongo dans ses activités. Mm-hmm. Et Luc Maresco qui est le réalisateur du film avec Benki Piyako donc au Brésil pour une soirée Twitch pour la chaîne Twitch d'Arte, voilà, ou l'inverse, pardon, je sais pas.
Oui.
Donc ça, voilà, je vous invite à venir les retrouver à la Gaîté Lyrique. Et si vous pouvez venir le samedi à la Gaîté Lyrique, ça se passe à peu près pendant toute l'après-midi et la soirée. Vous retrouverez à la fois dans le hall beaucoup d'associations qui œuvrent pour la préservation des forêts, où vous pourrez les rencontrer et découvrir leurs activités et comment les soutenir, surtout. À 17h30, je crois, samedi, vous aurez la diffusion du film sur la Papouasie, en présence, bien sûr, de Mujidje Kepanga. Et à 19h, samedi, à la Gaîté Lyrique, nous aurons, pour la dernière fois en France, la présence des 5 gardiens. Et là, ce sera une discussion libre, une conférence inversée avec le public qui pourra vraiment, pour la dernière fois, leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Donc, je vous conseille vivement de venir.
D'accord. Pour terminer, est-ce que vous êtes satisfaite, puisqu'on va toucher à la fin de cette campagne d'impact, des contacts qui ont pu être pris ? Est-ce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je sais qu'il y a une rencontre à l'UNESCO aussi avec des scolaires, peut-être avec des politiques. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée des petites graines que vous avez semées, de ce qu'on peut espérer voir sortir de terre ?
Alors, la rencontre à l'UNESCO, elle a eu lieu lundi.
Oui, là, lundi.
On est mercredi, je crois. Oui, donc, voilà, à l'UNESCO, il y avait... La grande salle de l'auditorium de l'UNESCO était remplie de jeunes entre 13 et 18 ans, c'est-à-dire à peu près 1000 élèves, et il y en avait autant en Zoom dans le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Donc il y avait près de 2000 élèves là face à eux, ça c'était assez chouette.
Wow.
Mais oui, que ce soit à Monaco, que ce soit à Evian, à l'UNESCO, ils parlent de par les différentes rencontres qu'ils font aussi, même chacun dans leur planning personnel sur Paris avec d'autres personnes. Oui. Il est certain qu'ils auront rencontré des personnes qui auront été sensibles à leurs activités, à leurs projets qu'ils mènent sur place, et que, alors on est peut-être encore trop frais pour en parler, c'est sûr, mais d'ici quelques semaines, on pourra, je pense, avoir vraiment un retour sur comment ils vont pouvoir bénéficier de toutes ces rencontres. Je sais que certaines ont été d'un niveau et d'une qualité vraiment très riche, donc je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont se passer pour eux de manière locale, pour le développement de leur projet personnel, et ça c'est très bien, mais aussi à un niveau peut-être un petit peu plus politique, législatif, on va dire, sur la prise de conscience de l'urgence de vraiment préserver ces forêts, et qu'il va se passer des choses. Donc il est peut-être encore trop tôt pour en parler, mais encore une fois, s'ils sont tous réunis en France aujourd'hui, c'est dans cet objectif de l'ouverture de la COP28. Tout morceau, comme on l'a dit, est déjà intervenu au Parlement européen. Voilà, il va se passer des choses, c'est certain. Leur implication portera ses fruits, j'en ai aucun doute.
Oui, j'ai vu qu'il y avait eu une couverture presse assez importante en préparant cette interview. J'ai vu un extrait du JTTF1 du 20h. Donc là, ça touche quand même un large public. Ça permet de faire connaître aussi, au-delà des rencontres qui sont indispensables de personne à personne, et de toucher par les médias aussi, faire passer le message un peu plus largement.
Oui, on a eu TF1, BFM, M6... vous avez, on a fait la couverture du Parisien, ils ont été, puis ça continue, RTL, vous, cet après-midi, là je les rejoins à RFI, puis on va passer à France 24, et puis demain à nouveau sur le plateau d'Arte pour 28 minutes, enfin toutes les chaînes, et c'est ça qui est fantastique, on sent qu'il y a vraiment une union des chaînes de télévision, des radios, des journaux sur cette même urgence-là, donc ça rejoint là encore ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité des médias vraiment de prendre position et qu'il y ait un tel engouement sur ce message qu'ils sont venus transmettre au monde quelque part, c'est prodigieux, c'est vraiment on est vraiment, et puis ils sont très 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 honorés de ça aussi, vraiment.
Oui. Bon, eh ben nous aussi, on est très honorés. Et moi, j'étais ravie, Muriel Barra, productrice et coordinatrice, directrice de cette campagne d'impact, qui est vraiment à l'origine de tout ça. Je suis ravie d'avoir pu partager, enregistrer, relayer votre parole pour faire connaître ce très beau projet. Ça va rester en ligne combien de temps sur le site d'Arte ? Assez longtemps, j'espère.
Alors ça, c'est formidable. Oui, vous pourrez retrouver les films jusqu'en 2027.
Ah, très bien.
Alors, vous avez le temps de les voir dans le détail. Et ça, c'est, je souligne aussi cet engagement de la part d'Arte qui, justement, dans le cadre de cette campagne d'impact, va laisser les films en diffusion libre pendant vraiment très, très longtemps. Donc ça, c'est formidable.
Très bien. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, comme les podcasts aussi circulent et sont partagés et du coup, ça dure pendant des mois, même quelquefois 2-3 ans plus tard, il y a encore des gens qui tombent sur les podcasts et recherchent en ligne les vidéos ou les livres ou tout ça. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle quand on sait que ça va rester accessible et qu'on peut aussi contribuer à ce que ça fasse un travail dans le temps. Parce que là, on est dans l'urgence et on a besoin de temps pour parler de l'urgence. Voilà. Un grand merci
beaucoup,
Muriel,
ouais,
pour votre temps. Parce que je sais qu'il est précieux et que vous avez un rythme très, très chargé. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Je pense que ça fera plaisir à tous les gens qui écoutent Sous Suite Planète. Merci, bonne continuation.
Merci
et
à vous.
Et à bientôt,
bonne
j'espère. Au revoir.
Merci pour la suite des podcasts. C'est gentil, à bientôt, Anne. Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs de Sous Suite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sous-suite-planète.com et je suis indépendante. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sous-Suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.